Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. En outre, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous pouvez trouver une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine. Maintenant, place à l'actualité. L'Argentine a la politique de transfert direct la plus importante de la région pour atténuer les effets de la pandémie de coronavirus, avec 2 ménages sur 3 couverts par le revenu familial d'urgence, l'IFE, selon une analyse de l'Université nationale d'Avellaneda dans la province de Buenos Aires. Le rapport de l'Observatoire indique que si l'Argentine couvre 66,2% des ménages avec l'IFE, le Brésil atteint à peine 25% de sa population avec des politiques sociales similaires, le Chili 31% et le Pérou 2,5%. En Argentine, l'IFE couvre 8,8 millions de ménages, soit 66,2% du total du pays, et la somme allouée aux 3 paiements déterminés par le gouvernement national représente 1,08% du produit intérieur brut du pays. Selon l'Observatoire, les politiques de transfert direct sont très courantes dans la région de l'Amérique latine, principalement parce que la plupart des pays partagent les caractéristiques de l'informalité et des taux de chômage élevés qui limitent la portée des politiques de protection de l'emploi et de la production. Par ailleurs, en Argentine, le secteur commercial accuse le coût porté par la pandémie et les drastiques mesures de confinement imposées depuis plus de 4 mois. Avant la crise sanitaire, le pays était déjà confronté à une inflation de 50% et à une dette écrasante héritée de 4 ans de néolibéralisme sous le gouvernement de Mauricio Macri. La situation ne s'est pas arrangée. Selon la Fédération de l'industrie de Buenos Aires, environ 18% des petites entreprises de la ville ont fermé depuis le début du confinement imposé à la population, d'après un reportage de RT France.
Sur ces devantures fermées, des messages d'adieu. Dans le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud, des dizaines de magasins mettent la clé sous la porte chaque semaine.
Ça nous a fait beaucoup de mal. C'est une douleur dans l'âme que toute la famille a, mais nous n'avons pas d'autre choix que de fermer et de partir pour autre chose.
Avant même que le premier cas de coronavirus n'y soit diagnostiqué, l'Argentine faisait déjà face à une inflation de 50%, plus de 300 milliards de dollars de dettes et en conséquence, un accès restreint au crédit.
Malheureusement, je dois fermer le magasin. Je fermerai certainement quand la pandémie sera terminée et je partirai parce que la dette qui s'accumule est importante et que je n'avais aucun moyen de la supporter.
Une double crise désormais, un défi de plus pour le président Alberto Fernandez, dont le parti péroniste est en partie fondé sur la promesse de venir à bout de la pauvreté en Argentine.
En mars, quand l'économie a commencé à reprendre un peu de vigueur, cela s'est passé, comme le dit le dicton, c'est le coup de grâce. J'avais déjà la franchise à vendre et aujourd'hui, c'est ainsi que j'ai commencé à vendre des masques, parce que les taxes continuent d'arriver.
Selon certains économistes, même après la levée des mesures de confinement, relancer l'économie argentine s'annonce difficile. En 2 décennies, le pays n'a jamais connu pareille crise. La Banque mondiale annonce l'une des pires récessions d'Amérique latine.
L'édition l'exposition de la nuit de la géométrie, dans le cadre de l'exposition Géométrie Sud du Mexique à la Terre de Feu, a réuni en 2019 le mathématicien et député Cédric Villani et l'écrivain argentin Alberto Mangel, membre de l'Académie argentine des lettres et ancien directeur de la Bibliothèque nationale argentine. En voici la première partie.
Quand je sus que j'allais être sur scène avec Cédric Villani, ce soir-là, j'ai eu un cauchemar. J'avais de nouveau 13 ans. J'étais de nouveau dans ma classe du lycée, devant le professeur de mathématiques qui voulait nous enseigner la géométrie. Et de nouveau, j'ai eu la pire note en classe. Ce professeur nous disait quelque chose qui maintenant me paraît fondamental. Il nous disait, si vous voulez savoir qui vous êtes, il faut savoir où vous êtes. Et pour savoir où vous êtes, vous devez apprendre la géométrie. Et ça ne m'avait pas frappé à l'époque. Mais aujourd'hui, quand je repense à ces mots, je me dis que voilà l'association entre géométrie et géographie. Vous allez voir si vous voyez cette magnifique exposition juste derrière vous. L'œuvre d'un architecte paraguayen, je crois, mais qui en tout cas est Aymara, de l'ethnie Aymara. Alors, les Aymara parlent la langue la plus parfaite au monde. Dans son livre sur la recherche de la langue parfaite, Eco dit que peut-être cette langue perdue du paradis est en fait l'Aymara. En Aymara, pour dire mensonge, pour dire ce que nous appelons fiction, on dit cari. Et ce mot, cari, est le même mot que les Aymara emploient pour parler d'être en position horizontale. Donc, être sur la terre en position horizontale est aussi raconter des histoires inventées. Et en français, ça semble étonnant d'associer l'acte de vous coucher avec l'acte de mentir. Et pourtant, en anglais, c'est le même mot. To lie et to lie. Je ne sais pas si l'Aymara a eu de l'influence sur les anciens anglo-saxons, mais je l'espère. Mais en tout cas, c'est un point de départ pour réfléchir au fait de raconter des histoires pour savoir où nous sommes et qui nous sommes. Donc, je fais ce rapprochement entre la géométrie, la géographie et encore la littérature. Je me suis rappelé, en pensant à cette soirée, je me disais, qu'est-ce que je veux dire de la géométrie sur scène avec Cédric Villani ? Et je me suis rappelé que dans Albertine disparue, Proust dit une chose étonnante. Il dit que, comme la géométrie dans l'espace, la psychologie dans le temps a besoin de plus de deux dimensions, que la psychologie plane, comme il l'appelle, ne sert pas à construire un personnage. Il faut une autre dimension, celle du temps, et il ajoute celle de l'oubli. Donc, je ne sais pas quels seraient les équivalents de cette troisième dimension en géométrie. À l'époque, ce même professeur voulait nous parler des géométries non euclidiennes qui nous paraissaient appartenir à la littérature fantastique. Ces lignes parallèles qui en fait se retrouvent. Et peut-être, Cédric pourra nous dire plus là-dessus, peut-être c'est là cette troisième dimension du temps et de l'oubli.
On va continuer sur ce que nous dit Alberto sur les liens entre géométrie, géographie, et ça nous donnera tout naturellement une motivation vers les géométries non euclidiennes. Géométrie, étymologiquement, c'est mesurer la Terre. On retrouve la racine de la Terre, géo, la racine de métrie, mesurer. Et de mesurer la Terre, on passe à la notion de réaliser un plan. Et si on y réfléchit, savoir se repérer dans l'espace, ça veut dire deux genres d'informations. Savoir où on est par rapport à d'autres objets. Être, si par exemple on est ici, sur cette scène, les gens d'un côté, de l'autre, qui est de l'autre côté par rapport aux uns et aux autres, qui se retrouvent au centre, une information de type position relative et une autre information qui est celle de la mesure des distances. On est là, même si on peut avoir l'impression quand on dessine un plan, on fait les deux à la fois, on est là sur deux missions très différentes de la géométrie, l'une qui s'intéresse aux formes globales et aux positions relatives, et l'autre qui s'intéresse aux mesures. La première, c'est le domaine de la topologie. La deuxième, c'est le domaine de tout ce qui est métrique. Et les géomètres, entre eux, aiment bien faire la distinction, et souvent très importante aussi dans la façon de penser, entre ceux qui sont plutôt dans la topologie, intéressés à la position respective des objets les uns par rapport aux autres, à la forme globale, et ceux qui sont dans la partie métrique. Pour un topologiste ou topologue, un ballon de rugby ou un ballon de football sont des objets identiques. Peu importe les distances, ce qui compte, c'est la forme globale. Pour quelqu'un qui est dans la géométrie métrique, en revanche, cela peut être très différent. En fonction des problèmes qui se sont posés à l'humanité, historiquement, c'est l'un ou l'autre qui a été développé, selon les questions, selon les outils. On peut se dire que ce qui est métrique est finalement plus facile conceptuellement. Il suffit d'avoir un ensemble de distances, des nombres, pour représenter les informations. Pour autant, historiquement, quand on regarde les premières cartes qui ont été faites des pays, de l'Europe, on voit que tous les ingrédients sont là, avec le bon positionnement, mais tout est déformé. Les distances ne sont pas bonnes quand on les regarde. La première carte historique qui a été faite avec précision, celle de sous Louis XIV, qui devait sans doute être supervisée par l'un de la dynastie des Cassini, a conclu que la France était finalement bien plus petite que ce qu'on croyait. La carte, une fois bien remise d'équerre, si j'ose dire, était sensiblement amputée par rapport à celle qui avait cours auparavant.
Alors, j'aurais dû faire la carte qu'a inventée Borges, qui coïncidait centimètre par centimètre avec l'Empire.
Celle-ci est une carte fort précise, pratique de certains côtés, moins de l'autre. On voit sur cet exemple combien la mesure des distances, finalement, peut être parfois une question délicate. Certaines des plus grandes aventures scientifiques de l'histoire ont été liées à la mesure très précise de la Terre, en particulier l'épisode extrêmement célèbre de la mesure de la Terre, faite au moment de la Révolution française ou quelque temps après, tout début du XIXe siècle, une aventure qui visait aussi à établir une unité de mesure commune pour tous les peuples du monde, du moins telle que le présentait la France, tout en ayant en tête qu'il revenait à la France et à la France seule d'avoir cet honneur de travailler pour le monde entier. Et l'idée, c'était vraiment de la géométrie au sens étymologique, c'était de dire on va mesurer la Terre très très précisément, décider que la 40 millionième partie de la circonférence terrestre, ça serait le maître, et que ça serait beau de, pour que chacun puisse mesurer son bien, sa propriété, avec un petit morceau de la terre entière, pour nous rappeler aussi que tout cela fait partie d'un seul grand objet qui est la terre. C'était vraiment de la géométrie au sens étymologique du terme. Et ça cherchait à mesurer les choses d'une façon extraordinairement précise, avec des erreurs ici et là qui ont été aussi extrêmement commentées dans l'histoire des sciences. Et puis, d'un autre côté aussi, cependant, quand on s'intéresse à la position respective des choses, l'autre versant de la géométrie, celui qui est plus topologique, très vite, on se retrouve avec des difficultés d'une autre nature, qui est déjà comment noter l'information. Il ne s'agit plus de nombres, puisque vous ne pouvez plus dire que ce sont des nombres qui vont représenter les choses. Comment noter le fait que vous avez une configuration à deux trous plutôt qu'à un trou, ou une configuration qui peut être extrêmement sophistiquée dans son arrangement et différentes parties les unes par rapport aux autres. Vous avez des questions de combinatoire qui arrivent, bientôt des questions algébriques. Et cette branche-là demande, pour y entrer, un bagage, une sophistication bien plus importante. On considère que l'un des actes de naissance de la topologie, de cette branche de la géométrie dans laquelle on s'occupe des positions respectives, c'est le problème des ponts de Königsberg posé par Leonhard Euler, et qui dit, voilà, il y a ces ponts qui relient des points dans la ville de Königsberg, et on se pose des questions sur tous les trajets qui sont possibles. Est-ce qu'on peut relier tous les points qui sont le long de ces ponts sans passer deux fois par le même pont? Comment même aborder ces questions du point de vue du raisonnement mathématique? Et c'est une problématique extrêmement riche qui a irrigué tous les siècles qui ont suivi. Toutes ces problématiques qui ont eu du grain à moudre dans ce grand élan qu'est la mathématique, au sens de la discipline qui a été développée dans la foulée de la Grèce antique, puis la mathématique perse et arabe, puis la Renaissance et ainsi de suite, on en retrouve des éléments, des interrogations spontanées dans toutes les cultures, à tous les âges. Et on les retrouve aussi dans certaines des œuvres qui sont exposées d'ici, dont certaines ont plusieurs millénaires. Et tout ça, ça nous rappelle que dans l'art, comme dans la mathématique, il y a le même genre d'interrogation qui est: qu'est-ce qu'on retient de la complexité du monde? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en valeur? Donc, selon quels axes on les organise, avec quelles briques on les représente, et comment on utilise ces représentations pour communiquer les uns avec les autres, pour communiquer des émotions, des sensations, des réalités. Alors, maintenant, pour parler un peu de géométrie euclidienne contre non-euclidienne. La géométrie euclidienne, c'est celle qu'on apprend à l'école, celle des droites, des plans, tout est lisse, tout est droit, tout est plat. Mais la géométrie, si c'est la mesure de la Terre, excusez-moi, la Terre n'est pas plate. On le sait depuis longtemps, Euclide le savait très bien, et il ne faut voir dans la géométrie euclidienne qu'une approximation de la réalité. Si on regarde la carte de la France posée à plat, en fait, c'est une approximation de la réalité qui est que la France est dessinée sur la surface de la Terre, qui est courbée. Courbée d'une part par le fait que la Terre est comme une sphère, courbée ensuite par le fait que vous avez des montagnes et des vallées. Donc, toutes sortes d'éléments qui, bien sûr, tordent la géométrie. Et c'est l'une des ironies de l'histoire que, pendant très longtemps, on s'est représenté la géométrie sous la forme idéalisée, plate dans toutes ses dimensions, et que c'est seulement au XIXe siècle qu'on s'est mis à regarder de façon systématique ce qu'il arrive des géométries qui sont tordues, d'abord à deux dimensions, puis à autant de dimensions que l'on veut. La notion fondamentale dans la géométrie, peut-être celle qui construit toutes les autres, c'est celle de point, bien sûr, et celle de droite. Et la droite, on peut la caractériser de bien des façons, mais comme on l'apprend aussi à l'école, le slogan, c'est la droite, le chemin le plus court qui relie deux points. On sait très bien dans la vraie vie que c'est jamais une droite, le chemin le plus court qui relie deux points. Parfois, il y a une montagne à contourner, ou parfois, si vous voulez aller de Paris à Buenos Aires, vous n'allez certes pas aller en ligne droite à travers la Terre. Vous allez donc devoir emprunter un chemin qui va passer à la surface de la Terre. Ce faisant, vous faites de la géométrie non euclidienne. Et ce qui va remplacer la droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la notion de géodésique. À partir de cette notion de courbe géodésique, on construit toute la géométrie. On peut le faire en deux dimensions à la surface de la Terre ou d'un autre objet. On peut le faire dans une géométrie à trois dimensions ou dans un nombre quelconque de dimensions si on est capable de se représenter ces objets ou de les analyser. Et une fois qu'on a dit cela, on se rend compte qu'on a un concept qui est naturel finalement et qui ouvre le champ à une infinité de possibles. Et la grande question, toujours en mathématiques, une fois qu'on a créé la brique élémentaire à partir de laquelle on ouvre les possibles, donc cette notion de distance et cette notion de plus court chemin, donc de géodésique, on ouvre les possibles et on se demande aussitôt après comment les classifier, comment les ordonner pour ne pas se retrouver avec juste une collection qui serait juste une énumération. Et la grande avancée extraordinaire qui a lieu au milieu du XIXe siècle, qui est due à Bernard Riemann, élève de Carl Friedrich Gauss, et en l'honneur de qui on a appelé les géométries non euclidiennes classiques, géométrie riemannienne, c'est la notion de courbure. Et qui vous dit, oui, il y a une infinité de géométries possibles, elles peuvent changer localement, tout ce que vous voulez, mais il y a un paramètre qui nous permettra de les classer, c'est la courbure. Et qui nous dira si une géométrie ressemble plus à un espace modèle qui serait une sphère ou à un autre genre d'espace modèle qui serait un col. Qu'est-ce qu'on entend par là? Prenez une sphère, imaginez deux avions qui partent de Paris et qui vont tous les deux, aux antipodes de Paris, en suivant des chemins différents. Ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre et puis ils vont finir par arriver au même point. Donc ils s'éloignent d'abord et ensuite ils se rapprochent. Deux droites sur un plan ne font jamais cela. Deux droites qui se croisent sur un plan s'éloignent pour toujours l'une de l'autre. C'est exactement ce que disait Alberto tout à l'heure, où les parallèles ne vont jamais se rencontrer. Alors que si vous partez de l'équateur, deux avions partant au même moment de l'équateur vers le nord, partant donc parallèles l'un à l'autre, vont finir par se rencontrer au pôle nord. Dans la vraie vie, on a ce caractère non euclidien. Et on parle ici de géométrie elliptique ou de géométrie à courbure positive. Si au contraire, les deux droites qui partent parallèles vont s'écarter l'une de l'autre, les deux géodésiques qui commencent parallèles vont s'écarter l'une de l'autre de façon extrêmement rapide, encore bien plus rapide que des droites, on parlera alors de géométrie hyperbolique. Ça ressemble à la géométrie d'un col. Vous voyez, quand vous avez deux montagnes et puis le col qui est entre les deux, vous allez avoir typiquement, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes au col? Vous pouvez choisir d'aller dans la pente de la montagne et de monter soit vers l'une, soit vers l'autre, ou de redescendre vers la vallée, dans un sens ou dans l'autre. Et si vous imaginez un promeneur qui part en direction du sommet, un autre qui part en direction de la vallée, ils partent, mettons, à angle droit l'un de l'autre, et les distances qui vont les séparer vont augmenter bien plus vite que s'ils étaient partis à angle droit sur une surface plane. L'un va monter, l'autre va descendre, et quand on regarde l'écartement, c'est plus rapide que linéaire. Et ces deux géométries typiques, celle de la sphère, celles du col, sont comme des archétypes, des situations de référence avec lesquelles on va tout comparer. Une grande partie de la géométrie, à partir de Riemann et tout au long du 19e, du 20e siècle, se construit par comparaison avec des géométries extrêmement simples de référence. Géométrie sphérique, géométrie plane, géométrie hyperbolique. Et à travers toutes sortes de quantités, toutes sortes de variations de la courbure, ça va être une grande partie du travail des géomètres, encore aujourd'hui, que de comparer des situations inconnues, variées, exotiques, à ces géométries de référence. On fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, de cette fameuse conjecture de Poincaré. Le problème était, en un sens, de comparer une géométrie quelconque, dont on sait qu'elle est sans trou, à une géométrie de référence simple, celle de la sphère. Beaucoup des œuvres, une partie des œuvres qu'on voit présentées ici, travaillent aussi par représentation de choses avec des archétypes, des triangles, des flèches, des carrés, des sphères, qui sait quoi. Et on se dit, ben, en décomposant des figures, des portraits humanoïdes en éléments simples. Mais c'est aussi la façon de penser à la fin de géomètres sophistiqués travaillant en recherche contemporaine.
Ce que vous disiez sur les différentes géométries qui nous apparaissent comme des archétypes de vocabulaire à utiliser pour comprendre le monde a été emprunté par la littérature. La géométrie comme un vocabulaire métaphorique. Et ça a été emprunté d'un côté par exemple, la littérature amoureuse des troubadours jusqu'à Rilke, mais aussi pour se moquer de cette volonté d'être précis. Et je pense surtout à Jonathan Swift et les voyages de Gulliver. J'ai apporté le livre des voyages de Gulliver parce que je voulais vous lire un passage où Swift se moque un peu des géomètres et des géographes. Il est dans l'île des Laputa, qui est, vous vous souvenez, une île volante où ils font des recherches scientifiques sans savoir très bien pourquoi ces scientifiques, ces géomètres, ces géographes qui se promènent sur cette île, la tête dans les nuages, réfléchissant à des problèmes, ont besoin de serviteurs qui les accompagnent pour qu'ils ne tombent pas dans le vide, ils ne sortent pas contre les obstacles réel de cette île. Et alors, Gulliver veut nous expliquer comment cette île fonctionne. Elle fonctionne grâce à un aimant et Gulliver va utiliser le langage des géomètres de son époque. Pour donner une idée de la manœuvre, dit-il, soit une ligne idéale AB divisant en deux parties parties égales, l'état des Balnibarbi, soit une ligne représentant l'aimante, D étant le pôle répulsif et C le pôle attractif, l'île se trouvant en C. Mettons l'aimant dans la position CD, le pôle répulsif venant se placer vers le bas. L'île va se déplacer obliquement en direction de D. Une fois atteint le point D, faisons pivoter l'aimant sur son axe jusqu'à pointer le pôle attractif en direction à présent de E. L'île va donc se déplacer Bon, j'en passe. Vous avez compris. Mais,
c'est poétique. Hein.
C'est poétique, mais bien sûr. Mais ce que vous avez raconté sur les différentes géométries, c'est poétique aussi, de pouvoir trouver des formules pour envisager non seulement la mesure du monde sur lequel nous sommes, mais aussi toutes ces imperfections. Nous voulons croire à notre Terre comme une sphère parfaite, bien sûr, ça ne l'est pas. Et comment parler de ces imperfections? Et c'est pour cela que, bon, il y a plusieurs genres littéraires qui empruntent ces géométries, mais une des plus amusantes, c'est le langage de la politique. En Argentine, un journaliste français avait demandé au général Perón qu'est-ce qu'était le péronisme. Et Perón lui expliquait, en Argentine, si vous divisez le territoire argentin géométriquement, il y a 40% qui sont des conservateurs, 40% qui sont des, appelons-les, réformistes libéraux, 10% de socialistes, 3% de communistes, 7% d'indécis. Le journaliste français dit, bon, voilà, nous avons le 100%, qui sont les péronistes? Ils sont tous des péronistes. Donc c'est un usage de la géométrie. Une autre anecdote qui me vient à la mémoire, ça se passe... Peut-être c'est l'hémisphère sud où se passent toutes ces choses-là, parce que celui-là se passe en Australie. Cédric nous a expliqué comment la géométrie sert à la géographie pour l'illustrer, pour lui donner un vocabulaire. Eh bien, il y a une dizaine d'années, il y avait des réfugiés kurdes qui étaient arrivés sur une île près de la côte australienne. Et le premier ministre australien à l'époque, Tel Howard, ne savait pas ce qu'il allait faire avec ces réfugiés kurdes. Et donc, il a décidé tout simplement d'éliminer l'île où ils étaient abordés des cartes australiennes. Et donc, de cette façon... Il a trouvé une solution géométrique à un problème politique.